Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce jeudi 21 mars. On est en live jusqu'à 22h avant d'accueillir Vanessa ce soir. Et au programme de l'émission, on va parler de quoi? De ces JO Paris 2024. Et oui, le tirage au sort des tournois football filles et garçons. Voilà, on va en revenir avec toute l'équipe de Time Sport ce soir. Le Ramadan versus la Fédération Française de Football. Ça fait tant jaser sur les réseaux sociaux et pas que. On va en revenir, là aussi c'est promis, long dossier ce soir sur cette antenne de Beurre FM, et sans oublier Deschamps face à l'Allemagne, mais aussi un peu on va parler de cette direction de la Fédération Française de Football, le directoire de cette fédé justement, son président Monsieur Diallo, le 01 53 48 3000, pour parler, discuter, coup de blues ou même un petit bonsoir chers auditeurs et auditrices avec nous. Le débat du jour, on le rappelle, quelle chance pour les Bleus aux Jeux Olympiques pour les filles et les garçons. Rien de plus simple pour en parler, le 01 53 48 3000. Sans plus tarder, on va présenter la magnifique équipe qui m'accompagne ce soir.
Time Sport. Les pourparlers.
On sort en compagnie de Benji. Bonsoir Benji, comment ça va?
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous, ça va très bien. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. On se magnifique jeudi soir. On va vous accompagner tranquillou, un super programme. On va se régaler, j'ai déjà très très hâte.
Eh ben nous aussi Benji, avec Tariq qui nous accompagne ce soir. Bonsoir Tariq.
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Très content de vous retrouver. Il commence à faire doux, on commence à voir le printemps.
Ouais, c'est vrai. On est au printemps.
Je suis bien. Ouais, on est bien.
Il fait beau sur Paris, c'est vrai. Même à travers le pays. Avec Mathieu aussi, dans le sud, il fait très très bon. Eh oui. Ça part déjà à la plage.
Bonsoir tout le monde. Ouais, on aimerait bien aller à la plage. Mais ce soir sur Beurre FM avec Time Sport, on a beaucoup de choses à dire et on va bien s'amuser encore.
Ouais, on va bien s'amuser avec HD aussi. On l'a retrouvé déjà hier et elle est avec nous ce soir. D'ailleurs, un big up à Coach Tollet de m'avoir secondé, sans oublier aussi à la réalisation à Solal qu'on va retrouver rapidement. Bonsoir HD.
Bonsoir Bilal, c'est mon back to back.
Ouais, c'est ça HD.
NBA cette semaine.
Bon, on va en profiter alors.
Voilà, un petit clin d'œil aux Parisiennes et aux Lyonnaises qui ont fait le taf cette semaine en Coupe d'Europe.
Champions League féminine.
Voilà, donc pour les amateurs les passionnés, il y a les matchs retour se joueront en France, donc Groupama Stadium au Parc des Princes. C'est pas tous les jours qu'elle joue dans ces grands stades là, donc voilà, ceux qui sont dans le coin et qui ont envie de voir un beau match de foot, sera mercredi soir et jeudi.
Ah ben c'est super. Adnan est avec nous comme chaque jeudi. Bonsoir Adnan.
Bonsoir Bilal. Bonsoir.
Comment ça va Adnan?
Ça va, mais l'heure est grave.
Ouais, l'heure est grave.
Ouais, on va en parler.
Il y a beaucoup de choses à dire,
exactement.
Adnan. Eh oui, justement. Eh ben là, il tombe à. Ouais, c'est l'homme qui tombe à pic, Adnan, ce soir. En tout cas, dans cette émission qui est Time Sport, le 01 53 48 3000. On va donner la parole à notre réalisateur Solal. Bonsoir Solal, comment ça va?
Buonasera a tutti. Très beau plateau encore ce soir. Franchement, on a des sujets incroyables. Et écoutez, 01 53 48 3000 pour parler avec nous, évoquer ces sujets forcément du soir.
Eh ben voilà, c'est ça. Beaucoup de choses à dire, Solal. Justement, avant de parler des Jeux Olympiques, on va parler des 50 meilleurs prodiges du football. Avec toi, Benji.
Ouais.
Tant de choses à raconter, là.
Ouais, c'est vrai qu'on a eu, du coup, le classement Next Gen 2024 qui est sorti, qui regroupe les 50 meilleurs talents du football mondial. Donc, qui sont, du coup, si je dis pas de bêtises, nés après le 1er janvier 2005, pardon, excusez-moi.
Oui, parce que sinon.
Ouais, mais bon, c'est. Ça nous met quand même un coup de vieux dans les dents, hein, je vous cache pas, parce que savoir qu'on a quand même déjà 50 prodiges, comme ils disent, qui sont nés du coup après 2005.
Ouais.
Franchement, c'est absolument génial. Je pense que amateur de jeunes pépites de football, le manager ou non, je pense qu'on aime voir aussi ces noms pour se renseigner si on ne les connaît pas ou se conforter dans les idées qu'on s'était fait en voyant des joueurs. On a en plus pas mal de Français qui sont représentés. On a du Junior Coupi, du Guillaume Rest, on a du Euro. On a du Euro qui est très bien classé, du Warren Zaïre-Emery bien évidemment.
Le troisième Zaïre-Emery.
Ouais, derrière.
Derrière Lamine Yamal et Hendrix, le Brésilien qui va signer au Real Madrid.
C'est ça, donc on a déjà peut-être
le deuxième. Premier, c'est Lamine Yamal. Okay.
C'est ça, donc peut-être encore un affrontement Barça-Real dans le futur, on verra bien. Mais non, moi c'est des choses. J'ai toujours aimé m'intéresser aux jeunes pépites, donc ce genre de classement, ça te donne envie encore de te plonger encore plus dans les noms que tu ne connais pas, t'intéresser encore plus au futur du football et commencer à te dire ah tiens, tel joueur j'aime bien, tel style de jeu j'aime bien, comment il joue, etc. et tout. Donc non, c'est vraiment quelque chose que je regarde de très très proche.
Ouais. Et le petit Matistel aussi, hein, quatrième.
Alors Mathieu,
le français qui est
à cette liste annuelle.
Désiré Doué aussi qui est 20e,
qui fait beaucoup de bonnes choses au Bayern, hein, Matistel. Donc ouais, comme disait Benji, il y a beaucoup de Français qui sont représentés.
Ouais.
Donc c'est que du positif pour l'équipe de France à l'avenir.
Ouais. Moi je suis assez étonné justement. Alors, du classement d'Hendrix. Parce qu'il n'a pas été régulé justement toute l'année et on sait qu'il a connu certains déboires au tout début ou même il s'est retrouvé carrément remplaçant et c'est qu'à la fin il a commencé à monter en puissance, etc.
Mais est-ce qu'il n'est pas deuxième justement parce que ce transfert au Real aussi?
Ouais, il est transféré au Real mais il n'a encore rien prouvé.
Voilà, c'est
ça. Il est dans le championnat local brésilien, on connaît le niveau et effectivement. Voilà, mais je suis assez étonné de son classement de deuxième. Je le voyais pas aussi haut. J'aurais pas vu aussi haut.
Alors justement, on va parler de cette équipe de France féminine. Hier soir a eu lieu le tirage au sort du tournoi olympique hommes et femmes. Hervé Renard aura justement un fort affaire dans ces JO. Hein, si on évite avec les Bleus, le groupe de la mort, on le rappelle, États-Unis, Maroc, Zambie, Allemagne ou Australie, les Françaises devront là aussi, comme le dit si bien nos confrères de Foot Mercato, en phase de poule, rencontrer la Colombie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. C'est bien ça?
C'est ça. Alors, il faut préciser une chose, c'est que les Françaises elles sont quand même dans le groupe des tenantes du titre, les Canadiennes.
Ouais. C'est ça, le Canada.
Donc le principe, c'est que la particularité des Jeux Olympiques dans le tournoi féminin, donc à l'inverse des garçons, c'est les équipes seniors. Donc c'est les mêmes équipes qui jouent et en Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques. C'est pas les jeunes. Donc voilà, toutes les équipes en gros auront leurs meilleures joueuses, mis à part celles qui seront blessées, mais auront leurs meilleures joueuses sur le terrain. Et donc parfois, le tournoi olympique, en fait, il est parfois plus difficile qu'une Coupe du Monde parce que, en gros, quasiment à chaque match, vous jouez des grandes nations, des équipes qui sont dans le top 15, top 20, top 20 mondial. Et en réalité, le groupe de la France, c'est le groupe le moins fort. C'est-à-dire que même le groupe, par exemple, de l'Espagne, vous avez Espagne, Japon, Brésil, et vous allez avoir soit le Nigeria, soit l'Afrique du Sud.
Ça, c'est très fort.
C'est des grosses nations africaines.
Quand même.
Donc, en fait, vous avez deux groupes très durs. Peut-être un le plus dur, c'est-à-dire celui avec les États-Unis et l'Allemagne, et vous avez un groupe, on va dire normal, qui est celui de l'équipe de France. Mais moi, par expérience, être dans un groupe moyen en première phase n'est pas forcément un avantage. Je vais expliquer pourquoi. C'est parce que d'une part, vous avez trois équipes qui peuvent sortir de chaque groupe, c'est-à-dire vous allez avoir 8 équipes qualifiées sur 12, donc vous allez avoir 4 équipes qui vont être éliminées. Et sur les deux, si on regarde sur les deux derniers tournois olympiques, c'est des équipes qui sont sorties de groupes de la mort, qui ont gagné le tournoi au final. Le Canada, il y a 3 ans, elles étaient sorties d'un groupe où il y avait la Grande-Bretagne et le Japon, donc qui était un groupe difficile. Et pareil en 2016, l'Allemagne était avec l'Australie et le Canada, et c'était les Allemandes qui avaient gagné. Donc être dans un groupe difficile au premier tour n'est pas forcément un désavantage. Être dans un groupe plus faible n'est pas forcément un avantage.
Mais il faut déjà pouvoir sortir.
Alors Mathieu.
Voilà, moi je pense que les Françaises ont évité le pire.
D'Hervé Renard.
Maintenant, tu parlais tout à l'heure de cette discussion. Quel est l'objectif des Français et des Françaises dans ces Jeux Olympiques? C'est de remporter ces JO.
Ah oui. Ouais, surtout pour les filles.
Que ce soit chez les filles ou même chez les garçons.
Ça a été fait.
Je pense que Thierry Henry, il a qu'un objectif, c'est de gagner ces JO.
Ouais.
Et de faire progresser ses joueurs et d'amener ses joueurs à ce titre olympique qui est quand même un des plus gros titres qu'on puisse avoir dans une carrière.
Ouais. Ouais,
donc après c'est pas gagné parce qu'il y a énormément
d'autres nations. HD,
chez les filles c'est très relevé.
Sont attendus.
J'ai dit il y a quelques semaines que les favorites pour moi étaient les Espagnols.
Ouais.
Maintenant voilà, les Espagnols ont un gros groupe. Donc maintenant il va falloir sortir de ce groupe de la mort et après en tout cas. Je place les Espagnols favoris. Maintenant, l'objectif des Françaises, c'est de rivaliser avec ces grandes équipes-là et de gagner les JO.
Au-delà de ça, déjà, je pense que pour l'équipe de France féminine, c'est déjà peut-être de faire mieux qu'il y a 4 ans, qui était déjà un très bon résultat. Vous avez fait 4e, si je dis pas de bêtises. Déjà, essayer d'aller faire un meilleur résultat, sachant qu'à l'époque, on n'avait pas une équipe d'Espagne qui était aussi forte. Il y a d'autres nations qui ont émergé dans le football féminin, qui peuvent leur poser plus de problèmes. Donc déjà, si tu vas me chercher une médaille aux Jeux Olympiques...
Il la faut.
Il la faut, ce sera déjà un très bon résultat.
On l'espère.
Donc il faut aussi remettre les choses dans l'ordre. Ouais. L'équipe de France... par rapport au gratin mondial, n'est peut-être pas aussi forte qu'elle l'était il y a 4 ans, selon moi. Et à côté de ça, t'as plein d'autres équipes qui sont devenues plus fortes.
Ouais.
Donc si déjà tu vas me faire une médaille à domicile et que tu vas me chercher un bon résultat, pour moi ce sera déjà quelque chose de positif. Et je pense que c'est l'objectif qu'elles doivent avoir en tête. Je pense qu'elles seront fières déjà parce qu'il faut bien le mettre dans l'ordre. Hein, pour moi, les Jeux Olympiques, chez les femmes, c'est peut-être le tournoi majeur entre guillemets pour elles, j'imagine.
Et puis aussi en 2020, les Japonaises n'étaient même pas arrivées en demi-finale.
Ouais.
Alors que les Japonaises sont une équipe très forte dans le football féminin.
On s'en souvient.
Et elles n'avaient pas atteint le dernier carré. Donc ouais. C'est pour dire, comme je rejoins Benji et HD, c'est que ce tournoi des JO féminin, il est très très relevé et toutes les grosses équipes peuvent remporter ce tournoi.
Alors Tariq et Adnan,
pour l'équipe de France féminine, c'est toujours l'éternelle question de savoir vraiment quel est leur réel niveau. Parce que chaque fois qu'il y a une compétition,
d'accord avec toi,
ils déçoivent.
Toujours.
Ils arrivent comme favoris avec des grands noms, etc. Et l'investissement qu'il y a dans le football féminin.
Le niveau, oui, mais l'objectif aussi.
L'objectif, il est clair.
Parce que Benji avait
l'air une médaille.
Non, mais je veux dire, Benji avait l'air de se satisfaire d'une quatrième place. Il faut encore. Il faut
du coup,
faire mieux,
c'est une troisième place.
Après, il faut faire attention.
Alors là,
il faut quand même en termes d'objectif
passer par rapport à l'époque justement de Corinne Diaz et aujourd'hui de
Corinne Diacre.
Mais aujourd'hui justement c'est Hervé Renard, il a fait une compétition, il a donné une bonne image justement par rapport à l'équipe féminine. Certes elle joue à domicile, donc avoir la ferveur populaire, mais derrière moi elle fait son annonce justement sur son départ, moi qui me pose problème.
C'est-à-dire
qu'on a 124 jours justement des Jeux Olympiques. Il aurait pu patienter de dire attendez, je fais d'abord le tournoi et après se prononcer justement sur son départ. Là il l'annonce bien avant et dans la tête des joueuses, comment ça va se passer?
C'est la nouvelle mode.
Il y a l'accumulation aussi du fait qu'il a voulu, il a postulé pour reprendre la Côte d'Ivoire pendant la Coupe d'Afrique. Donc c'est un peu spécial. Ça te donne le message un peu, oui, je suis là, histoire d'eux, mais s'il y a mieux, de toute façon,
c'est exactement ça. Je
m'en vais. Donc, moi, je trouve spécial le message derrière.
On termine avec le tournoi olympique féminin.
Je suis d'accord avec Tariq, c'est-à-dire que l'histoire avec Hervé Renard, c'est que Hervé Renard, il a dépanné. C'est-à-dire qu'il a rendu service à un moment où il n'y avait pas de solution naturelle pour remplacer Corinne Diacre.
Et de fait,
son départ après les JO, c'était quelque chose de programmé. Quand on suit l'équipe de France, on voit qu'Hervé Renard, il est pas vraiment à sa place à la tête de cette équipe.
Mais tu mets qui à la place?
Attention, moi je trouve pas ça incohérent. Il a fait un tournoi et il a fait une Coupe du Monde. Là, il fait les JO et après, c'est normal justement de pouvoir postuler à autre chose. Oui. Il aura fait le taf.
Oui, mais clairement, il a dépanné. Ce que je veux dire, c'est que lui, dans son état d'esprit, il a rendu service à l'équipe de France, à l'institution, on va dire, équipe de France, mais c'était pas forcément l'équipe que lui voulait entraîner.
Ouais. D'accord, je dis, mais maintenant tu mets qui à sa place? Parce que
il y a pas de solution naturelle, c'est ce que je disais.
Problème.
C'est en ce sens-là que Hervé Renard il a ce mérite-là d'avoir rendu service à un moment où il y avait besoin. Maintenant sur l'équipe de France, effectivement, son meilleur résultat c'était à Londres en 2012, elles ont été quatrième. Au dernier JO, elles étaient pas présentes, elles avaient pas fait partie des trois équipes européennes qui avaient participé. Et en gros, la qualité importante pour gagner un tournoi olympique, c'est l'aspect athlétique. Et c'est pour ça que les équipes nord-américaines, donc le Canada et les États-Unis, sont fortes dans ces tournois. C'est qu'il faut jouer tous les 3 jours. Il y a 6 matchs à jouer tous les 3 jours.
Ouais.
Et vous avez des équipes qui, en gros, au bout de 3-4 matchs, en fait, n'ont plus la caisse pour aller au bout du tournoi. Donc cet aspect athlétique, il est important. Et l'équipe de France, elle a un déficit à ce niveau-là. Il y a beaucoup de joueuses, soit qui reviennent de blessures, soit qui ne sont pas à 100%. Donc ça va être un des enjeux d'ici au tournoi, de savoir quel va être l'état de forme de joueuses comme Diani, comme Katoto, Cascarino, etc.
Mais il y a des filles qui sont capables et qui jouent tous les 3 jours avec le PSG ou avec l'Olympique Lyonnais.
Surtout, il y a des gagnants de Ligue des Champions qui ont gagné multiples tournois et qui, normalement, on doit avoir le coffre et l'état physique, en tout cas, pour pouvoir justement poursuivre ce type de tournoi.
Bah, ceux qui ont vu les matchs, justement, là, cette semaine de Lyon et du PSG, on a vu que, par exemple, des joueuses comme Katoto, par exemple, n'a pas joué. Le Sommer Diani n'était pas forcément à leur meilleure forme. Cascarino, elle n'a pas pu jouer toute la rencontre. Donc, en gros, vous avez des joueuses importantes, des joueuses qui sont censées marquer des buts pour l'équipe de France. Et on sait que ce domaine offensif, c'est peut-être le plus gros chantier, on va dire, d'ici au jeu. Il y a quand même pas mal d'incertitudes, notamment vraiment sur l'aspect athlétique. Donc, la question qui va se poser, c'est quelles sont les équipes qui vont être à 100% et qui vont, en gros, qui vont pouvoir laminer les autres sur cet aspect-là. Et clairement, par exemple, aux derniers Jeux Olympiques, c'est la Suède et le Canada qui étaient les meilleurs, et c'est celle qu'on a retrouvée en finale.
On va marquer d'une courte pause, on va revenir, c'est promis, rien que pour vous chers auditeurs et auditrices, sur le tournoi olympique, mais garçons. Et après on parlera aussi de la Fédération française de football. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 21h18, on se jeudi soir, jeudi 21 mars à 22h, on accueillera Vanessa comme il se doit jusqu'à minuit. Allez, ce soir, on est en compagnie de Adnan, d'HD, de Benji, sans oublier Mathieu et Tariq. Allez, le second gros dossier de cette émission.
Time Sport. La parole des sociaux.
C'est la Fédération Française de Football, mais avant de parler de Fédération Française de Football, on va s'attarder sur justement le tirage au sort là aussi du tournoi à garçons, tournoi olympique garçon, hein, de ces JO d'été Paris 2024 où Titi Henry, voilà, le maître absolu de cette équipe, hein, des espoirs, eh ben rencontreront là aussi les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et aussi, eh ben ça sera non. C'est ça, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande. Et aussi, voilà, c'était le vainqueur du barrage entre la Guinée et une équipe du continent asiatique. Tariq, là aussi, quelque chose à dire. On nous dit, bon, il n'aura pas peut-être ça en son équipe avant Dieu, je cite, si Mbappé ne sera pas là. Mais d'autres joueurs seront là, peut-être.
Bah, déjà, avant de parler de Kylian Mbappé, je pense alors, l'interrogation qu'on a et l'interrogation qu'a Thierry Henry, c'est de savoir est-ce que les clubs vont jouer le jeu, les clubs de Ligue 1, les clubs étrangers, est-ce qu'ils vont lâcher leurs joueurs pour les Jeux Olympiques. Je pense que ça va être son combat avant les JO, et c'est surtout ça, parce que même là on peut voir l'équipe qui est sélectionnée pour les U23, il n'est même pas garanti d'avoir cette équipe-là pour les Jeux Olympiques, et je pense que c'est très très compliqué à préparer, et je trouve ça dommage. Et moi c'est là où j'ai une petite interrogation aussi, pourquoi il y a une différence alors, entre les féminines et le règlement est différent pour les féminines et pour les garçons. Mais ouais, c'est très compliqué pour Thierry Henry, et même là par rapport à ça, il y a vraiment cette interrogation là. Et après, concernant le groupe, je pense que c'est un groupe qui est largement abordable. Les États-Unis, d'après ce que j'ai pu voir, ils ont une jeune génération qui est très forte. Ils travaillent très bien chez les jeunes.
Bien sûr.
Donc je pense que ça va être l'équipe la plus compliquée du groupe. Mais mis à part ça, je pense que ça va le faire. Et l'objectif, quand t'es à domicile, t'es à Paris, bah ça reste pour moi la médaille d'or. Quand tu vois le vivier, la génération qu'il y a. Tout à l'heure, tu parlais des 50 jeunes potentiels. Bah là, en tout cas, je pense que avec le vivier qu'il y a, tu dois en tout cas viser la médaille d'or.
Bien sûr, HD, oui, on rappelle, avant de revenir avec tout le monde.
En vrai, quand on regarde le tirage au sort, le principal piège pour l'équipe de France, il est plutôt en quart de finale.
Quand on
regarde le groupe B qui va croiser avec le groupe A donc de l'équipe de France, il y a l'Argentine.
Ah ben voilà,
qui,
Benji le disait.
En termes de potentiel, et parce que c'est les deux derniers vainqueurs, les deux dernières équipes à avoir gagné les JO ne sont pas là. C'est le Brésil et le Mexique. Et après, quand on va chercher un peu plus loin, c'est l'Argentine, et l'Argentine sera présente cette année. Donc dans ce groupe, il y a l'Argentine, il y a le Maroc qui a gagné le tournoi africain en jeunes,
et
il y a l'Ukraine qui ces dernières années,
les Ukrainiens.
Alors bon, il y a le contexte de la guerre, mais en équipe de jeunes, l'Ukraine c'est une des équipes sur le continent européen qui marche le mieux. Donc ça veut dire que quel que soit l'adversaire, que l'équipe de France termine première ou deuxième de son groupe, elle peut se retrouver avec un match piège en quart. Et on sait qu'au JO, l'objectif c'est d'arriver en demi, et après, une fois que t'es en demi, tout est possible. Donc voilà, donc c'est un bon tirage pour la phase de groupe, mais la question ça va être vraiment qui l'équipe de France va jouer en quart.
Ouais. Angie.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit autour du plateau, mais c'est vrai que quand tu vois le vivier potentiel que peut avoir entre les mains Thierry Henry, que tu les compares un petit peu avec ce qui se fait à droite à gauche, j'ai quand même l'impression que sur le papier, l'équipe de France a quand même potentiellement le meilleur 11 à poser sur la table pour ces Jeux Olympiques. Après, est-ce que les clubs vont jouer le jeu comme le disait Tariq? C'est là que va se poser la question. Après, moi, ce qui va être très intéressant à suivre aussi, selon moi, c'est la capacité à motiver que va avoir Thierry Henry. On sait que les Jeux Olympiques sont une compétition qui lui tient énormément à cœur, parce qu'il n'avait pas pu les jouer quand il était jeune. Et j'avais écouté une interview de lui qui expliquait que justement, c'était l'une des seules fois qu'il avait pleuré dans sa carrière, c'est quand on lui avait dit qu'il ne pourrait pas participer aux Jeux Olympiques. Donc je pense qu'il pourrait avoir ce côté
revanchard.
Ouais, revanchard, et même dans l'émotion.
Surtout, il a été pris pour ça. Surtout s'il a été pris, c'est pour faire tête de figure justement par rapport à ces Jeux Olympiques. Voilà, c'est l'une des raisons principales pourquoi il est à la tête de l'équipe de France aujourd'hui.
Et après, maintenant, c'est-à-dire, il va falloir faire mieux que les anciennes générations de jeunes, que ce soit aux Jeux Olympiques ou dans certaines compétitions récemment où ça a déçu. Donc, c'est à lui de montrer qu'il est peut-être le coach qu'il faut pour gérer les jeunes et surtout aussi bien choisir les joueurs potentiels qui vont pouvoir rejoindre cette équipe de plus de 23 ans.
En ouais, plus, avec moi, Adrien, j'ai un petit bémol justement par rapport à ce que tu as dit. Alors, c'est par rapport au potentiel qu'il a. Ouais. Aujourd'hui, justement, il ne sait pas quel joueur il va avoir. Donc, je le répète encore, on est à 124 jours de la, ouais. des Jeux Olympiques.
Ouais, c'est pas beaucoup.
Et malheureusement, l'équipe qu'il va mettre, peut-être elle n'aura jamais joué ensemble. C'est peut-être terrible. Elle n'aura aucun automatisme. Et, là, chaud, ouais. Et on est là, on est. Oui, on va passer les quarts, les demi, etc. Ouais, mais on ne sait même pas quel 11 va y avoir sur le terrain, qui feront les remplaçants. Ils sont encore là à demander justement au Real de Madrid de libérer les joueurs en sachant que le Real ne libérera jamais ses joueurs. Et donc, on est vraiment dans une incertitude, excusez-moi. Sur le groupe, sur l'effectif, sur le 11, et malheureusement ça passera pas. Ça passera pas parce que pour moi il n'y a pas d'automatisme, il n'aura pas travaillé avec cette équipe.
Ouais.
Après,
juste pour rebondir là-dessus, l'avantage cette année c'est que tout le monde est logé à la même enseigne, c'est-à-dire qu'il y a l'Euro, mais il y a aussi une Copa América qui est panaméricaine cette année.
Il y avait la Coupe d'Afrique, c'est vrai.
Autant l'Amérique du Sud que l'Amérique du Nord. C'est donc vrai. Ça veut dire que par exemple l'équipe d'Argentine qui sur le papier peut être une des favorites sur ce tournoi va avoir les mêmes problèmes. Par exemple, un joueur comme Enzo Fernandez qui peut être pris aussi bien pour la Copa América que pour les JO. Dans quelle équipe il va être? Et vous avez quelqu'un comme Javier Mascherano qui est le coach de l'Argentine pour ces JO, qui commence à parler de Messi par exemple, parce qu'il sait que ça peut être mobilisateur de dire voilà, on va monter une super équipe, on va aller chercher le titre, mais c'est aussi parce qu'il sait qu'il y a un certain nombre de joueurs peut-être qu'il les aura pas.
Tu n'as pas aussi les Espagnols aussi qui sont obligés de libérer les joueurs locaux?
Il y a ça aussi, oui. En tout cas, l'Europe et les équipes américaines sont à la même enseigne. Et donc, on a vu dans certains tournois olympiques, les équipes asiatiques, le Japon, la Corée du Sud notamment, ont bien marché. Si le Japon et la Corée du Sud, qui eux n'ont pas de compétition juste avant, sont capables d'aligner une équipe compétitive, ils peuvent aller chercher quelque chose.
Ouais. Mathieu.
Oui, déjà pour revenir sur Thierry Henry, tu disais Benji, tu vas t'interroger pour savoir si Thierry Henry peut motiver ses troupes, mais Thierry Henry c'est un gagnant, il a un mental de guerrier et j'ai aucun doute sur le fait qu'il va trouver les mots pour motiver ses joueurs. Et deuxième chose, je trouverais ça dommage que les clubs de Ligue 1 ne jouent pas le jeu parce que c'est les JO en France, les JO on les a que tous les 4 ans. Donc il y a beaucoup de joueurs qui ont surtout
les
jeunes.
Et tous les 100 ans dans son pays.
Et puis là les jeunes qu'a réuni Thierry Henry, c'est un groupe qui se connaît bien puisque c'est à peu près souvent les mêmes qui l'appellent, donc ils sont habitués à jouer ensemble. Il y a des sacrées pépites dans cette équipe d'espoir, donc je trouverais ça dommage, mais je sais pas comment ça pourrait s'articuler avec une réunion avec les présidents ou les entraîneurs de Ligue 1.
À partir du moment où aucune obligation par rapport à la FIFA,
c'est vrai.
Avec ce début justement de saison qui va arriver, avec la préparation, etc. Ouais. Moi, je pense qu'il y en a plein qui vont pas jouer le jeu.
Les joueurs ont montré leur mécontentement.
Le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Oui, mais tu parles d'obligation. Là, si ton jeune il vient te voir, c'est les JO en France. J'aurais peut-être pas la chance de rejouer d'autres JO. Ceux qui ont 22 ou 21 ans, les prochains JO, ils ne pourront pas les faire.
Mais il y en a malheureusement qui l'ont manqué.
Mais rappelle-toi des derniers Jeux Olympiques, ce qui s'est passé.
Mais là, c'est en France.
France ou pas France.
Justement, c'était catastrophique.
Ils n'ont pas libéré. Exactement.
C'était catastrophique.
Mais les clubs, ils n'ont rien à foutre.
Donc on va montrer encore cette image-là.
À quel point ils vont finir à la fin de saison? Est-ce qu'ils vont monter? Est-ce qu'ils vont descendre? Est-ce qu'ils vont finir européen? C'est tout. Et la balance financière.
Donc ça veut dire qu'on va encore montrer cette image-là alors qu'on joue ces JO en France? Ouais.
Mais bien sûr,
c'est catastrophique.
Une équipe comme l'Argentine peut aller chercher des Messi, des Di Maria, et que nous, on peut même pas prendre nos propres espoirs qui pourraient être éligibles.
Mais rappelle-toi ce qui s'est passé au dernier jeu
d'action avec la Fédération française de football.
Gignac, au dernier moment, au fin fond du Mexique, etc. Et ça n'avait pas collé. L'équipe, elle ne tournait pas.
Mais parce qu'ils sont. C'est HD ou Atari qui le disait, ils ne sont pas habitués à jouer ensemble.
Et donc, forcément,
on a un vivier, on a un.
Et surtout, t'avais un sélectionneur qui n'était pas ouf.
Justement, on parle de sélectionneur. On revient justement dans l'Hexagone. Hein, on quitte pas le pays, notre si beau et cher pays justement. Là aussi, cette année encore, le Ramadan dans le football n'a pas échappé aux polémiques. Et oui, comme la saison passée, la Fédération française de football a décidé de ne pas s'adapter à cette pratique religieuse. L'instance du football français a même transmis une consigne. lignes assez claires. Hein, les joueurs de confession musulmane de moins de 16 ans jusqu'au A sont priés de ne pas jeûner lorsqu'ils seront appelés. Anan, peut-être une première réaction avant de donner la parole à toute l'équipe et aussi aux auditeurs.
Faire encore un coup de polémique, un coup de buzz justement que la fédération fait. Pour moi, encore une fois, ils sont encore pilotés par le gouvernement. Pour moi, ça vient pas de Diallo, ça vient pas des instances justement.
Le président de la fédération française de football. Ouais.
C'est les politiques justement qui ont donné leur consigne justement par rapport à ça.
Ah ouais, carrément.
Peut-être pour créer la polémique, pour créer le buzz. Mais en tout cas, je suis sûr et certain, ça ne vient pas de la fédération. Ça vient pas de la fédération parce que aujourd'hui, voilà, dans ces cas-là, on donne la consigne à tous les clubs amateurs, etc., de sortir leurs jeunes qui font le ramadan et de pas faire jouer les compétitions. Mmh. Et on verra justement l'état du football français.
Ouais.
Mais pour moi, c'est pas Diallo qui a pris cette décision ou le COMEX, c'est une consigne du gouvernement, tout simplement.
Pourtant, c'est le président, hein. On le rappelle, Philippe Diallo, hein, qui l'a annoncé.
Mais c'est une continuité quand même, parce que quand t'entends, déjà, moi, ça fait 15 ans pour la première fois, déjà, la chasse au tapis de prière, etc., je pense qu'il y a vraiment.
Oui, mais là, on est passé vraiment au stade.
Oui, c'est une continuité. C'était déjà, c'était pas le même gouvernement. C'était
plusieurs marches au-dessus.
C'était d'autres dirigeants. Mais moi, je pense que c'est une continuité. Toujours, ce qui est visé, malheureusement, c'est.
Ça n'a jamais été fait une annonce officielle.
Alors.
Tu vois, la chasse au tapis de prière, tout ça, c'était en catimini, c'était fait en interne, etc. Là, aujourd'hui, c'est le président de la fédération, Diallo, qui prend le micro, 1-2-1-2, et qui l'annonce.
Bien sûr.
Et qui légitime tout ce qui va se faire auprès des clubs professionnels.
Alors.
C'est-à-dire que l'histoire justement de Camboire sur le ramadan, c'est terminé. Il n'y aura plus de polémique. Pourquoi ? Parce que la fédération aura dit « Nous, on fait comme ça. Maintenant, vous faites comme vous voulez. »
Mais attention, ils sont malins. Hein. Ils sont vicieux parce qu'ils ne te disent pas qu'ils interdisent la pratique du jeûne. Ils te disent qu'ils ne veulent pas d'aménagement pour ceux qui pratiquent
appelés.
Le jeûne.
Ceux qui seront appelés.
Voilà, c'est ça.
Il y a un cas Diawara. Bien sûr.
C'est là où ils sont un peu vicieux dans
le discours. Sélectionné
avec 19.
Et justement, il a passé son chemin et voilà, il a souhaité ne pas rejoindre le rassemblement des Bleuets, voilà, à Clairefontaine. Là aussi, peut-être... Je sais pas, il y a qu'en France où ça pose problème. Nos voisins, Benelux, Belgique, Hollande ou encore Luxembourg, les Allemands, les Anglais aussi. On a l'impression qu'on n'a pas ces problèmes-là. Benji, peut-être une réaction. Il faut dire les choses. Hein.
On a même beaucoup de choses qui sont faites dans les autres pays pour aider justement la pratique de la religion dans les meilleures circonstances. Et moi, c'est quelque chose qui me révolte.
Alors.
Parce que dans le sens où là, tu rentres vraiment dans le privé de la personne. C'est-à-dire que tu ne vas pas au-delà de te dire il ne faut pas que c'est un impact sur la vie de groupe. En fait, il y a des choses que je pense... qu'on pourrait entendre, c'est-à-dire que si la religion prend de la place dans la sélection ou dans le club et que ça fait et que ça va créer des dérangements parce que ça changerait des horaires, parce que le gars serait pas en forme pour jouer, il sèche les entraînements, ça décale tout le groupe. Il y a des choses qu'on pourrait entendre. Sauf que là, ça ne dérange en rien, que le mec ne mange pas, ne boive pas, du moment que le gars s'entraîne, que le gars est respectueux, que le gars fait le job derrière derrière il est pas performant à l'entraînement et qu'il joue pas, c'est le choix d'entraîneur.
Mais Benji, surtout qu'il parle de performance.
Alors.
Mais rappelez-vous, il y a deux ans, Benzema, il volait sur le terrain.
Mais Benzema,
exactement.
Quand est-ce qu'il faisait semblant de boire à la Coupe du Monde 2018, parce qu'on a tenté de faire le ramadan, il faisait semblant de boire
et il le faisait. Le problème, c'est que. En fait, ils légifèrent sur un truc que personne n'a réclamé. Que ça soit même pour les pauses pour la rupture des jeunes.
C'est ça.
Je n'ai entendu aucun joueur musulman réclamer ça.
Ils sont dans leur coin.
S'il n'y a pas de syndicat des joueurs musulmans qui réclament quelque chose.
Non.
Là, en équipe de France, j'ai jamais entendu un joueur de l'équipe de France qui a été sélectionné, que ça soit chez les jeunes ou que ça soit en A, réclamer un aménagement pour quel.
Mais le pire que ça, c'est que la rupture du jeûne est à 19h. Jusqu'à maintenant, enfin, il y a aucun match qui commence à 19h, 20h30, etc. Et donc, il n'y avait pas besoin justement de polémiquer sur ce type
Mathieu,
de sujet.
Mathieu, avant de donner la parole aussi à HD, vas-y Mathieu.
Oui, ça pose problème.
Alors,
parce que,
ça pose problème.
Voilà, tout a été dit un peu autour du plateau, mais cette histoire avec le jeune Lyonnais, là, qu'on lui a interdit de pratiquer. Le ramadan, il a préféré et on voit qu'il s'entraîne à Lyon. Donc à partir de là, on se dit il y a un problème parce que on s'est dit peut-être qu'il est blessé ou peut-être qu'il y a. Et non, c'est juste qu'il peut pas.
C'est juste que t'es mis à l'écart parce que tu pratiques ta religion.
Il peut pas pratiquer sa religion comme il l'entend et c'est vrai que c'est vrai que c'est un problème.
Ah c'est fou HD.
Après,
ce qui se passe.
Juste pour expliquer d'où ça vient, c'est-à-dire pourquoi cette décision elle intervient maintenant.
Bien sûr.
Il y a l'année dernière, il y a une décision du Conseil d'État. voilà, parce qu'on parle du lien justement,
oui,
d'où ça vient la décision, voilà, exactement. Sur un autre dossier qui était un collectif qui s'appelait les hijabeuses et qui réclamait, ouais, que la possibilité de pouvoir porter le voile sur le terrain de football, en disant voilà, nous on est des citoyennes lambda, on n'est pas des agents de l'État, donc quand on est sur un terrain de football, on voudrait pouvoir. Et donc il y a eu une décision du Conseil d'État en mois de juin de l'année dernière qui disait que en gros c'était la Fédération française qui avait raison quand elle faisait le choix d'interdire les signes religieux sur les terrains. Et par ailleurs, dans cette décision, il y a un point qui dit que quand des joueurs de football sont en équipe de France, donc qui sont dans le cadre de la sélection, en gros, s'applique un principe de neutralité, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des agents de l'État, comme si c'était des profs, des agents dans une mairie, dans une préfecture, donc ils sont censés être soumis à un principe de neutralité et ils n'ont pas le droit de montrer que, en gros, ils sont chrétiens, musulmans ou voilà. Donc ça, cette décision-là du Conseil d'État, elle permet aujourd'hui à la Fédération française de dire, bah voilà, quand on est en équipe de France, pas de ramadan, pas de religion, rien du tout. Donc voilà, donc c'est une opportunité qui a été donnée à la Fédération française par cette décision du Conseil d'État. Et la Fédération française a choisi la décision la plus simple, c'est-à-dire le ramadan, c'est à l'extérieur de l'équipe de France. Quand vous êtes en équipe de France, on ne veut pas en entendre parler.
Il y a eu un communiqué, ouais, sur le carême, ouais, parce que je crois qu'on, ouais, est en période de carême aussi. Il y a,
ouais,
y a,
ouais,
pas,
ouais,
eu
aussi pour les carême.
Ouais.
C'est
pareil pour,
oui,
tout.
Ouais,
c'est vrai. Tu as raison.
Ce qui est complètement dingue, c'est que là, en plus, on parle d'un cercle privé, que en fait, on dit qu'ils sont agents de l'État, donc ils doivent un devoir de neutralité. Mais là, en fait, il n'y a pas une caméra qui est braquée sur eux sans cesse. C'est-à-dire que les joueurs entre eux, ils n'en ont rien à foutre, en fait. Enfin, c'est comme nous, on a tout joué au football, on n'en avait rien à foutre, en fait, quand on était dans un vestiaire, de se dire tu viens de tel endroit, tu pratiques telle religion ou quoi que ce soit. Et au contraire, en fait, je pense que c'est censé rassembler, et là, en fait,
c'est
on se retrouve
à l'idée.
On va revenir.
Tout simplement,
c'est même pas pour ce qu'ils font, ils font des choses où ils se montrent, etc. Tout, juste parce qu'ils ont décidé de ne pas manger entre telle heure et telle heure.
Et tu fais bien de le rappeler. Vous restez avec nous, le 01 53 48 3000, si vous voulez réagir, justement. Le ramadan, on en parle aussi, chers auditeurs et auditrices, notamment dans le sport. Et ce soir, on le fait avec l'équipe de Time Sport autour de cette table, rien que pour vous. Allez, à de suite.
Time Sport revient dans un instant. Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour pour la dernière partie de cette émission, 21h37. Vous êtes à l'écoute de Beurre FM, chers auditrices et auditeurs. Avant d'accueillir Vanessa, 22h minuit. Allez, on est tous ensemble avec Benji, Tariq, Annan, HD, et sans oublier aussi notre Mathieu National, le 01 53 48 3000. Pour réagir tout comme Achille, avant de donner la parole à Achille, on va donner la parole à Annan. C'est parti pour le dernier gros dossier.
Time Sport, le mode pressing.
Beaucoup de monde du côté du Standard, ça fait tant réagir, hein, ce ramadan, mais aussi cette équipe de France de football. Avant de parler de Didier Deschamps et aussi de ce qui s'est dit avec le président de cette fédé, on le rappelle, monsieur Philippe Diallo. Annan, on revient sur ramadan avec ses joueurs sélectionnés, ou pas?
Encore une fois, voilà, maintenant, c'est quoi le discours? C'est quoi le comment dire, les consignes qui vont être données, justement, que ce soit au football professionnel, au football amateur, par rapport à la période du ramadan? Comment on fait?
Le principe, c'est que, encore une fois, parce que pour dissocier ce qui se passe en club et ce qui se passe en équipe de France, la décision qui a été prise par rapport à l'équipe de France, elle n'est pas applicable en club. C'est-à-dire qu'un club, c'est-à-dire qu'il y a une structure privée, une société, ne peut pas imposer ce qu'a fait la fédération à un de ses joueurs. C'est pas possible. C'est-à-dire que ce principe de neutralité, il s'applique que dans le cadre de quelque chose qui est lié à l'État. Donc voilà, donc en gros, après on peut, moi je suis d'accord, on peut discuter sur est-ce que sur le principe c'est juste ou pas juste, mais en club, la décision qui a été prise par la Fédération française, elle n'est pas applicable.
Alors, elle n'est pas applicable. Tariq, peut-être Mathieu, vous souhaitez réagir avant de retrouver
je sais pas, en sélection,
le standard et Achille.
Est-ce qu'on peut t'obliger à manger aussi et à boire? Moi je pense pas, ça reste quand même spécial comme décision. Et moi juste un mot.
Alors,
moi je pense qu'il y a quand même des joueurs dans cette sélection qui ont un certain impact médiatique, et au bout d'un moment il faudrait qu'il y ait un de ces joueurs là que ça soit un Ousmane Dembélé, je pense que ce serait plus
et de confession musulmane, en plus,
voilà, de confession musulmane, qui prennent position, qui prennent la parole par rapport à ça, parce que ça les engage pas qu'eux, mais ça engage aussi les jeunes générations. Là, tout à l'heure on parlait de Diawara, et je trouve que c'est très grave ce qui est en train de se passer en ce moment.
Qu'un mec comme Paul Pogba qui a plus rien à perdre pourrait justement prendre position.
Ouais, mais ça sert à rien quand c'est sur la fin, ça sert à rien. Il faut des joueurs qui sont là.
Et effectivement,
Je pense que si lui déjà prend position en disant voilà, c'est pas normal, etc. Nous, on l'a toujours fait, on a toujours performé, on a ramené des trophées pour le pays, etc., etc. Je pense que déjà, ça peut avoir un impact et pousser d'autres joueurs à le faire.
Et regarde, c'est comme Patrice Evra qui parle en fin de carrière. Alors c'est comme tous ces Anelka qui parle en fin de carrière. Tous ces joueurs-là, il faut des joueurs qui sont en plein dedans.
Je suis pas d'accord avec Anelka. Anelka, même pendant sa carrière, il l'envoyait.
Il
l'envoyait.
Le 0153483000, on va retrouver Achille. On a beaucoup de personnes qui nous accompagnent concernant ce sujet-là. Bonsoir Achille. Ouais, il est avec nous. Ouais, ça va très très bien Achille.
Eh bien, bon, écoute, le sujet est très intéressant, mais il y a plusieurs aspects. Déjà, quand on voit la sélection des 23 qui ont été sélectionnés, quand tu regardes, a priori, il y aura une minorité effectivement de joueurs de confession musulmane. Il sera à peu près entre 4 et 5. Effectivement, j'ai entendu un peu plus tôt durant les échanges que la période de jeûne se termine effectivement aux alentours de 19h30, donc effectivement ça altère pas forcément les performances sportives, étant donné que les matchs ont lieu le soir, n'ont pas lieu dans la journée. Et l'autre aspect, et sur lequel moi j'aimerais vraiment appuyer là-dessus, c'est que qu'est-ce qui s'est passé entre France 98 et aujourd'hui? Parce qu'en France 98, effectivement, il y avait un certain nombre de joueurs aussi qui étaient musulmans.
Il y en a eu à qui, Achille? France 98, il y avait qui?
Zinedine Zidane.
Non, il ne fait pas Ramadan. Non.
Ah, non, mais on parle de joueurs de confession musulmane.
Ouais, mais qui ne posaient pas de problème.
Non, mais attends. Qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas le Ramadan. Ça, c'est propre à chacun, ça. On n'est pas là, on n'est pas la police des uns, même une police religieuse, pour savoir qui fait ou qui fait pas. Non. Aujourd'hui, on est dans un contexte enfin, c'est la fin de mon propos, ça, plutôt. Mais depuis 1998, ou avant, c'était black, blanc, beurre, ça ne gênait personne. On n'avait rien à foutre de savoir.
T'as eu Sarkozy qui est passé par là.
Alors, telle ou telle personne faisait le Ramadan ou pas. Entre-temps, je sais pas qu'est-ce qu'il y a parlé de Sarkozy, mais entre temps t'as eu
c'est Tariq qui a parlé de Sarkozy. Monsieur Sarkozy.
T'as eu l'Euro 2016, l'équipe de France est en finale, t'as eu la Coupe du Monde 2018, t'as eu celle de 2022. C'est juste le climat sociétal qui fait qu'aujourd'hui tout est bon à créer cette anxiété et cette ambiance qui n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, si on respecte les principes fondamentaux du football, ce sport-là est un sport apolitique. Donc quand les joueurs arrivent sur le terrain, on ne sait pas s'ils sont musulmans, chrétiens, bouddhistes, juifs, ou n'importe quelle autre religion possible qui existe sur cette terre, on ne le sait pas. Ils représentent les couleurs de l'équipe de France.
Achille, tu sais quand est-ce que ça a posé problème?
Non, mais si le sélectionneur, qui lui a été joueur, donc qui a été confronté à cela, continue de sélectionner des joueurs de confession musulmane, ce que peut dire le Conseil d'État, ce que peut dire la Fédération, n'a pas de poids en réalité. Parce qu'on peut très bien avoir une communication pour dire que oui, en équipe de France, on respecte les règles, mais est-ce que vous êtes là au quotidien pour savoir ce qui se passe?
Moi, Achille, je pense que ça a changé.
Alors,
depuis Nahina 2010 et avec le fameux discours de Roselyne Bachelot, quand elle parlait justement des racailles dans l'équipe de France, des joueurs apeurés, etc., etc., et que même en interne, justement, il y avait pas mal de polémiques sur la nourriture halal qu'il y avait justement à la cantine, etc., et qu'ils ont mis un stop à tout ça à partir de cette période-là.
Moi, après, peut-être, mais j'ai pas d'informations de ce côté-là, donc je m'avancerai pas sur un sujet dont je n'ai pas les honneurs divertissants sur ce point de vue. Mais il faut revenir aux fondamentaux. On ne parle pas de politique, on doit parler de sport et de performance sportive. Donc si sportivement parlant, le sélectionneur, qui est quand même Didier Deschamps, est peut-être le plus grand sélectionneur de l'équipe de France, se permet de convoquer des joueurs qui sont susceptibles ou pas, mais de faire le ramadan, c'est qu'il le sait et il le fait en parfaite connaissance de cause. Et les résultats parlent pour lui.
Achille, moi je vais aller dans un côté un peu plus, vicieux, c'est totalement personnel. Je pense que Didier Deschamps aussi est derrière tout ça et qui, et qui légitime tout ça. Parce que pour moi, c'est Diallo, c'est juste quelqu'un qui est là. Mais le véritable patron du football français et de la fédération, ça reste Didier Deschamps.
Ça, c'est vrai.
Et s'il y a quelque chose qui se passe comme ça, je pense qu'il n'est pas, étranger à tout ce qu'il y a et tout ce qui arrive.
Mais Achille a raison. Achille a raison. Achille a raison dans le sens où...
Parce qu'il est totalement étranger à cela. Auquel cas, le président de la TTN... Monsieur Hubert Fournier, sa sortie, jamais existé.
Justement, tu vas dans mon sens, parce que la manière, tu te rends compte qu'un sélectionneur, comment il renvoie le DTN, la manière dont tu lui as parlé, la manière dont tu lui as renvoyé sa réflexion sur les tirs au but à la figure, ça te montre que Didier Deschamps, il peut tout se permettre. Moi, j'ai trouvé lunaire, la sortie de Didier Deschamps.
Ouais, mais regarde, mais raison de plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça crée un débat qui n'a même pas lieu d'être, puisque le sélectionneur lui-même fait ses propres choix. Et quand tu regardes la liste des 23 qui sont convoqués là, de ce que je sais, à minima, il y a 4 joueurs qui font le ramadan. À minima. Après, peut-être qu'il y en a d'autres. Et ça,
après, on sait pas s'ils pratiquent ou ils pratiquent pas. J'aurais bien aimé voir un Kylian Mbappé qui pratique le ramadan, voir si la fédération est aussi forte face à un gros joueur comme ça que face à un Diawara.
Enfin, après moi personnellement, c'est peut-être mon avis et ça n'engage que moi, les propos que je vais tenir, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir si un tel ou un tel fait la ramadan.
D'accord.
Non, mais on est tous d'accord.
Et malheureusement, on est dans une société aujourd'hui où tout est bon pour accentuer une politique anxiogène et résultat des courses. En fait, on ne parle même pas de France-Allemagne, qui est quand même un match extrêmement important pour lesquels, en tout cas du moins pour les Français, on ne peut pas perdre face à l'Allemagne, mais on passe plus de temps à parler des pratiques du ramadan, faut le faire, faut pas le faire, faut les exclure, qu'est-ce qui se passe, or que t'as un match extrêmement important, quoi.
Merci Achille. Oui, réaction avec HD.
Et Achille, pour aller dans ton sens et pour donner des éléments aussi aux auditeurs sur cette ambiance dont on parle, il y a une loi par exemple il y a 2 ans et demi sur la loi qu'on appelait sur le séparatisme. Et si vous vous souvenez, il y avait pas mal de dispositions dans cette loi qui concernaient le sport, c'est-à-dire la vigilance par rapport à la radicalisation dans le sport. Est-ce que les clubs sportifs sont des lieux de radicalisation? Il y a pas mal de textes, de rapports. Donc aujourd'hui, de fait, au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, il y a une volonté de montrer qu'il y a une intransigeance sur ces questions. Donc après, le truc, c'est nous, à la fois, chacun défendre ses convictions, mais pas aussi tomber dans des panneaux qui, en gros, qu'on nous tend, et en gros, tomber dans la polémique facile plutôt que de s'interroger sur comment faire en sorte, à l'avenir, que les joueurs qui à un moment donné se sentent heurtés dans leur conviction, ils puissent venir en équipe de France sans avoir l'impression d'être en terrain miné.
Tu peux pas mélanger le fait de pratiquer le ramadan et comparer ça à la radicalisation. Enfin, c'est ça qui est complètement fou aussi d'un autre côté, c'est qu'il faut pas commencer à tout mélanger, l'islamisme radical et des gens qui pratiquent leur foi. Ils ont totalement le droit de pratiquer leur foi et tu n'as pas à t'immiscer, à lui poser. Alors, attention, tu vas faire le ramadan, toi tu vas pas manger entre cette heure-là et cette heure-là, désolé, c'est dehors. Mais ça se paraît complètement dingue quand tu prends du recul sur la situation.
C'est lunaire.
Et c'est exactement le but recherché.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on parle plus des sujets qui sont infimes et qui n'ont pas une réelle portée pour la France en ce qui concerne l'aspect sportif, surtout dans une année olympique. Ça donne quelle image?
Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils soient performants sur le terrain. Peu importe leur religion, peu importe s'ils mangent ou s'ils mangent pas, on veut qu'ils soient bons sur le terrain. Et on n'a pas à leur demander s'ils boivent de l'eau ou pas.
Et s'ils sont pas bons, ils jouent pas.
Exactement.
C'est le choix du coach, c'est ce que disait Benny.
Si à l'entraînement il est pas performant, il jouera pas. Mais c'est pas parce qu'il mange pas qu'il jouera pas.
Alors voilà.
Est-ce que l'État a intervenir comme ça par rapport à la FIFA, justement dans les consignes données aux fédérations? Est-ce que à un moment la FIFA n'a pas son mot à dire également par rapport à ça?
Non.
Non. En fait, c'est que si on regarde les fédérations, par exemple en France, en fonction des fédérations, les politiques sont différentes. Ce que dit le Conseil d'État ou le gouvernement, c'est dire voilà ce que vous pouvez faire. vous avez un panel de possibilités. Et par exemple, si vous discutez avec les responsables de la Fédération française de handball, avec Bilal, on connaît très bien, par exemple, quelqu'un comme Béatrice Barbus, qui est une des responsables de la Fédération de handball. Ils n'ont pas du tout les mêmes positions. Et eux, ils ont une position beaucoup plus ouverte, justement, sur ces questions-là. Mais le truc, c'est que la législation actuelle permet à la Fédération française de faire ce qu'elle fait, mais elle pourrait faire d'autres choix. Voilà.
D'accord. Donc, elle a pris la liberté de le faire sans être poussée par qui que ce soit.
Il faudrait peut-être juste très rapidement nuancer. Je ne mettrai pas la faute sur la Fédération. Il y a certaines personnes au sein de la Fédération à qui ça fait plaisir.
Mais bien sûr. Carrément, ça fait plaisir.
Mais ça fait 20 ans, ça a toujours été comme ça.
Non,
mais c'est la vérité.
Quoi ?
Faut dire, qu'on regarde toutes les institutions, les fédérations, les districts, etc. Il y a toujours ce noyau dur qui est dans cette mouvance-là. Toujours. Depuis 30 ans, 40
mais faut
ans.
Pas mettre, mais faut pas mettre tout le monde.
Non, mais j'ai dit un noyau.
Dans le même...
Il y a un noyau. Il y a toujours un noyau.
Oui, je sais que tu as bien dit un noyau. Mais il faut bien que tout le monde ait conscience que. À la Fédération française de football, tout le monde n'a pas ou ne véhicule absolument pas ces idées-là, d'autant plus qu'il y a des recherches scientifiques et sportives, justement, qui permettent de trouver des solutions et de comprendre quels sont les bienfaits ou les mauvais faits lorsqu'on pratique un jeûne aussi drastique et quels sont les risques physiques et physiologique.
Il y a une étude scientifique derrière la Ligue des Champions de Benzema il y a 2 ans.
Ah ben voilà. Ouais. Ouais.
Juste par rapport à ça, en tout cas, on est en train de sûrement d'assister à quelque chose. C'est que je pense que les binationaux vont se poser un peu moins de questions concernant l'équipe de France. Et peut-être se diriger vers leur pays d'origine. Et je pense aussi qu'il y a autre chose, c'est qu'il y aura certaines personnes qui supportaient l'équipe de France avant et qui vont peut-être arrêter de supporter cette équipe-là parce qu'ils se sentent stigmatisés à chaque fois.
Merci Tariq, merci Achille aussi d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM.
Merci. Salut Achille.
Ouais, merci. Peut-être rapidement avec Moussa. Ouais. Oui. Vas-y Mathieu.
Achille, il a raison.
Alors.
Parce que là, l'émission touche à sa fin. On n'aura pas parlé de France-Allemagne.
C'est ça. Voilà, parce qu'on
Parce que comme dit Benji,
par cet épisode-là,
un tel n'a pas le droit de boire et de manger entre telle heure et telle heure, donc ça crée des polémiques. Mais il y a qu'en France qu'on voit
moi
ça.
Moi qui voulais faire 40 minutes sur Mouzi Alea, je suis détruit. Putain.
Ah ben voilà, désolé Benji, c'est vrai.
Mais c'est triste d'en arriver là.
Eh oui, mais c'est vrai. On a pris beaucoup de temps concernant cet épisode-là, malheureusement, pour la beauté du football et la beauté du sport en elle-même. Ouais. Vous restez à l'écoute de Beurre FM, chers auditeurs et auditrices. C'est Vanessa qui arrive, 22h minuit. Et nous, on se donne rendez-vous dès demain pour la dernière de la semaine. Bye bye.
Retrouvez Time Sport, podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.